Conférence de théologie sur l'Église à la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 23 août 95, deuxième conférence.
Je réponds aux questions posées. Au chapitre 4, verset 8, si les quatre vivants sont le mystère du Verbe fait chair, comment comprendre théologiquement que Dieu adore Dieu? Ils n'ont de repos jour et nuit. Ils disent Saint, 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 le Seigneur Dieu. Est-ce l'humanité sainte de Jésus qui adore et contemple le Père à travers cette prière de louange? Oui. C'est l'humanité sainte de Jésus. C'est un problème très débattu aujourd'hui qu'on touche là. Pour saint Thomas, ça n'offre pas de difficulté. Étant donné que le Verbe s'est fait chair et que la nature humaine du Christ adore le Père. Et Jésus est celui qui adore le Père de la manière la plus profonde et la plus intime. Adoration en esprit, en vérité. Alors, théologiquement, la personne du Verbe, en tant que personne du Verbe, ne peut pas adorer. Mais le Verbe fait chair, adore à travers et dans son humanité. Vous voyez ? C'est un problème très délicat, mais qui est très, très important, parce que la théologie moderne, qui ne pénètre pas jusqu'à la métaphysique, et qui reste dans le vécu, uniquement dans la phénoménologie, alors à ce moment-là, c'est extrêmement difficile de distinguer ce que Thomas d'Aquin distingue grâce à sa métaphysique, le cours et le quad. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Petite distinction. Cours, ce par quoi celui qui, ce par quoi Jésus adore. Celui qui adore Jésus. Celui qui adore, c'est la personne. Ce par quoi, c'est la nature humaine. Si vous ne faites plus cette distinction, parce que vous regardez le vécu uniquement, le vécu de Jésus en tant qu'il est le Verbe incarné. Alors vous direz, c'est impossible. Dieu n'adore pas Dieu. Vous voyez ? Alors, il est dit expressément, Jésus prie, notre Père qui est aux cieux. Alors, vous voyez dire, Dieu ne prie pas Dieu. Et Jésus dit, notre Père. Il pria, sortir au désert et prie. Vous voyez, et Jésus a vécu des commandements de Dieu. Le premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras. Et Jésus vient nous apprendre l'adoration. Alors, les autres questions. Marie. Son acte chrétien de la foi. Cependant, le premier acte de foi de l'histoire biblique, n'est-il pas celui de notre père Abraham? Oui. premier selon l'ordre historique, génétique, et l'acte de Marie premier en ordre de perfection. Et le premier acte de foi explicite, de foi chrétienne, c'est ce que je vous ai dit. C'est Abraham, le premier. Marqué qu'on pourrait dire que c'est Adam. Mais le premier avec une grâce chrétienne, non explicitée. Oui, des distinctions théologiques. Et c'est vrai, Adam est le père de la foi. Il est premier par rapport à tout le peuple d'Israël. Qui avait vraiment la mission d'adorer Dieu dans sa foi et par sa foi. Et Marie, elle, est première dans l'ordre de perfection. C'est la première fois, en raison même de ce que l'ange lui dit, qu'elle peut adorer le Verbe devenu chair, le Fils bien-aimé du Père, qui est son Fils. Où l'Esprit Saint apparaît-il dans le prologue? Très bien, il apparaît à la fin de l'évangile de Jean, le Paraclet. Alors certains disent qu'il apparaît à propos de la vie. C'est métaphorique comme langage, puisque l'Esprit Saint est source de vie. Mais c'est vrai qu'il n'apparaît pas explicitement, mais il apparaît au terme de l'évangile de Jean. C'est suffisant. Pour ce que nous avons vu, nous avons dit le Père, le Fils et l'Esprit. Sur la prédestination. On comprend bien que notre prédestination doit être vue à travers le mystère de l'agneau égorgé. Mais pourriez-vous expliquer comment comprendre les paroles du Christ? Beaucoup sont appelés, peu seront reçus. Et l'autre parole, celui qui séduit un petit enfant, il vaudrait mieux qu'il soit noyé dans la mer, ou bien qu'il ne soit pas né. Judas. La prédestination, c'est le regard d'amour du Père sur nous. Il nous prédestine à travers son Fils bien-aimé. La prédestination implique notre consentement. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Puisque le mystère de la prédestination implique le don de la grâce et qu'on soit enfant de Dieu. Et on ne peut pas être enfant de Dieu en dehors de l'amour. Et donc sans une acceptation libre de cet amour divin. C'est pour ça qu'on peut dire que beaucoup sont appelés et peu répondent à cet appel. Alors c'est toute la question extrêmement difficile. C'est la bouteille à l'encre. Là, on ne peut pas répondre sur le nombre des élus. Vous allez voir, on nous parle du nombre des élus dans l'Apocalypse. Mais aussi on dit, d'une façon très belle, qu'on ne peut pas mesurer, nous, le nombre des élus d'infini. Alors le nombre de ceux qui refusent l'amour, je n'en sais rien. Alors il y a la théorie extrême de ceux qui disent seul Lucifer est en enfer. L'enfer existe, c'est le lieu de Lucifer. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des myriades qui ont suivi Lucifer. Quand même beaucoup d'anges mauvais. Jésus est venu pour les hommes, pour les petits derniers, les petits benjamins. Il n'est pas venu pour les anges. Pas parce que Jésus ne les aime pas. Mais parce que l'ange, quand il pêche par orgueil, pêche de manière telle qu'il est totalement engagé dans son nom. Et il ne peut pas revenir dessus. Le démon, c'est ça qui est terrible, le démon est sincère dans son refus d'amour. Et refuse la miséricorde. Parce que pour recevoir la miséricorde, il faudrait qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé. On ne peut la miséricorde ne peut se donner qu'à deux. Il faut accepter d'être un pauvre pour recevoir l'aumône. Il faut accepter qu'on est pécheur pour recevoir le pardon de Dieu. Si on n'accepte pas qu'on est pécheur, on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. Or, l'orgueilleux, comme tel, ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Lucifer ne se reconnaît pas pécheur. C'est lui qui a raison. Et Dieu s'est trompé. C'est pour ça qu'il est si terrible quand il nous attaque. Parce qu'il a une persuasion extraordinairement forte, démoniaque. Il refuse. Ça explique beaucoup de choses, vous savez ça. Ça explique dans des codes très tragiques, si vous voulez. Après chaque concile, il y a toujours quelques-uns qui refusent, toujours. On dit, mais ils devraient regarder les fruits. Non, ils ne veulent pas. Ils restent fixés dans leur orgueil, dans leur refus d'obéissance. Alors ils sont sincères dans leur orgueil. On peut être sincère dans l'orgueil tout en étant dans le mensonge. Alors là, il faudrait étudier très près ce que c'est que l'orgueil. Et étudier très près ce que c'est que l'orgueil luciférien. Il est totalement engagé dans son nom. Et jamais n'accepterait de revenir qu'il a pu se tromper. Alors ça, c'est le grand mystère de la condamnation. Ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est l'homme qui se condamne en refusant d'obéir, en refusant la miséricorde. Vous voyez, il y a le passage dans l'évangile de Jean qui est très net là-dessus. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Cette parole, à première vue, on dit, mais c'est impossible de préférer les ténèbres à la lumière. Mais c'est impossible. À moins d'être une cruche. On ne peut pas préférer les ténèbres à la lumière. C'est impossible. Et Jésus explique, car leurs œuvres sont mauvaises. On peut préférer ses œuvres à la lumière. Parce que la lumière vient de Dieu, d'un autre. Et l'œuvre, ça vient de nous. Et on aime toujours mieux ce qui vient de nous. Alors ceci, ce qui vient de nous, n'est pas dans la vérité. N'est pas dans l'amour. On préfère les ténèbres à la lumière. Oui. Et ceci parce qu'on préfère ses propres œuvres. Qui viennent de nous. Donc, voyez, beaucoup sont appelés. Ça, Il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour le salut de tous les hommes. Il a payé, si métaphoriquement, il a payé la dette de tous les hommes. Tous. Judas y compris. Mais tous ne reçoivent pas la miséricorde du Christ crucifié. Puisque pour recevoir la miséricorde du Christ crucifié, il faut s'avouer pécheur. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut accepter en face de Dieu de se reconnaître pécheur. Oh, attention, je n'ai pas du tout retourné en dérision. Alors là, voyez-vous, je dis ça, vous n'avez pas le compris du tout, pas du tout. Ah, alors, mais c'est bien de dire ça, au moins vous le dites. J'aime mieux que vous le disiez, parce que je peux alors à ce moment-là dire que c'est tout à fait faux, je n'ai pas du tout dit ça. Avec tout le respect que je dois à votre science, non, on n'a aucun respect pour la science. C'est là où c'est terrible, je suis philosophe, alors je parle formellement. Alors on a croit que c'est parce qu'on méprise, mais pas du tout. Le respect regarde la personne, et la personne n'est pas la science. Vous voyez, alors c'est tout le temps comme ça, leur dire vous respectez. Mais non, parlons sérieusement. Je dois vous dire que je suis choqué de votre façon de tourner en dérision le renouveau charismatique. Je crois que je n'ai pas tourné en dérision. J'ai dit que je connais très bien, j'étais à l'origine du renouveau charismatique de l'Emmanuel, avec Pierre Goursat, qui était un grand ami, et je l'ai soutenu. Alors là, vous attaquez mal. Mais les charismatiques sont eux-mêmes conscients que c'est un premier mouvement. Oui, et qu'il faut aller plus loin. Les charismatiques, c'est merveilleux pour réveiller les gens. Les églises étaient froides. On les réveille, on les réchauffe. Oui. Je parle ça parce que c'est donné sur mon... Si c'était donné en conscience personnellement, je ne le dirais pas, mais c'est mis là, donc il faut le régler. Puis peut-être, c'est très vrai, vous avez raison de le dire. Si, au fond, vous croyez que je le tourne en dérision, alors je dis non. Si je l'ai mal fait, je m'en excuse, parce que je ne veux pas du tout tourner en dérision le renouveau charismatique. Je l'aime de trop. Je l'ai aimé dès le point de départ, j'ai soutenu. J'en fais partie. Ah bon, c'est très bien. C'est le renouveau qui n'est pas mis, qui n'a pas mis au monde. Oui, pardon. J'étais donc les ténèbres. J'étais donc dans les ténèbres de l'angoisse depuis 20 ans. La prière dans un groupe du renouveau et notamment le chant en langue a permis à Jésus de me toucher en profondeur. Tant mieux. J'en suis très heureux. Voyez. Mais c'est deux choses différentes, ça, vous voyez. Je ne tourne pas en dérision le renouveau charismatique, je dis que le renouveau n'est pas seulement charismatique. C'est deux choses différentes. Dans la pensée du pape, le renouveau doit être au niveau. Il est au niveau charismatique, il existe. Mais il doit exister au niveau de toute l'Église. Donc il doit exister au niveau de la vie religieuse, de la philosophie, de la théologie. Vous voyez, là, c'est deux choses différentes. La théologie n'est pas charismatique. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le charisme? Selon toute la grande doctrine de l'Église, le charisme, c'est un don donné gratuitement pour aider et sauver le prochain. Le charisme comme tel n'est pas la grâce sanctifiante. la grâce sanctifiante, je précise au point de vue théologique, hein, la grâce sanctifiante et ce qui nous est donné directement par le Christ, par la très sainte Trinité, par le Père et par l'humanité sainte du Christ. Donc vous voyez, ça c'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est ce qui nous sanctifie. C'est pour ça qu'on dit grâce sanctifiante. Le charisme comme tel implique toujours un élément sensible. Toujours. Parce qu'il est fait pour la communication. Il est fait pour permettre au prochain de recevoir la doctrine, puisque le premier charisme, selon saint Paul, selon la doctrine de l'Église, le premier charisme, c'est le sermo sapientiae. Je l'écris pour bien montrer que je les aime. Le sermo sapientiae, c'est-à-dire la parole de sagesse, la communication de la sagesse, c'est le premier charisme. Pouvoir communiquer aux autres ce qui en nous est le plus secret. La connaissance sapientiale nous met en face des secrets de Dieu. Le mystère du Verbe. Pouvoir communiquer et parler de la très sainte Trinité d'une manière qu'on puisse adhérer à ce mystère. Oui, donc ça c'est quelque chose de très grand. Et c'est quelque chose de très beau. C'est le premier des charismes. Un prédicateur qui a une conviction de foi tellement grande que sa foi se communique. C'est charismatique. Et tous les prédicateurs, si le Seigneur leur permet, ils doivent avoir cette certitude de foi. Vous voyez, ça touche la certitude de la foi pour la communication. C'est charismatique. Ah, je continue. Donc, notamment le chant en langue a permis à Jésus de me toucher en profondeur. Depuis mon entrée dans la prière du renouveau, je connais une liberté d'esprit que je n'avais jamais connue. C'est par le renouveau que Jésus a mis au large mon cœur. Dans le renouveau, j'ai d'ailleurs vu de mes yeux des guérisons formidables. Tout à fait, c'est charismatique. J'espère que je ne suis pas subjectivement pour juger. Oui, j'espère que je ne suis pas impertinent pour juger du renouveau. Il faut en faire partie. Oui, mais voyez, alors vraiment, je n'ai absolument eu aucune envie ni aucune intention mauvaise de juger le point de vue charismatique. Le charisme vient de Dieu, s'il est authentique. J'ai su par le père O'Connor, qui était professeur à Notre-Dame, aux États-Unis, comment a commencé les charismatiques. Je peux vous le dire, pour vous montrer que je ne suis pas du tout en opposition. C'est le père O'Connor lui-même qui m'a raconté ça. Il y avait à l'université de Notre-Dame, aux États-Unis, il y avait un groupe d'étudiants protestants, de ceux qui sont dans le point de vue de rester lié directement à la Pentecôte, au don de l'Esprit Saint. Il disait toujours aux catholiques, vous, c'est l'institution, nous, c'est l'Esprit Saint. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces étudiants catholiques ont relevé le défi. A dit, si vous voulez, on va vous montrer que le Saint-Esprit est avec nous. Et qu'il n'est pas seulement avec vous. et même qu'il est plus avec nous qu'avec vous. Mais le petit caractère américain, là, est très très sympathique. On va tout de suite, on relève la chose, puis on va y aller carrément. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venez, on vous invite. On vous invite à la chapelle. Puis on verra sur qui le Saint-Esprit descend le premier. Oui, c'est tout à fait Élie avec les prêtres de Baal. Et ça s'est passé comme ça, puisque lui a été témoin. Ils l'ont prévenu, puisqu'il était aumônier des étudiants catholiques. Oh là, la réunion qu'on a faite, est-ce que vous ne pourriez pas venir? Comme ça, vous constateriez avec nous. Alors, ils se sont mis à briller, catholiques et ceux qui étaient pentecôtistes, donc qui étaient à côté. Puis, qu'est-ce qui a commencé? Des catholiques ont commencé à parler. Une phrase, non pas en langue inconnue, mais c'était de l'araméen. Le père O'Connor, qui connaît l'araméen, a noté. Un autre a parlé. Ils ont récité tout l'Ave Maria en araméen. Et aucun de ceux qui ont parlé ne connaissait l'araméen. Alors quand le « Je vous salue Marie » était terminé en araméen, le père O'Connor a pris la parole et dit « Voilà ce que vous avez dit, c'est le « Je vous salue Marie » en araméen. » Alors, tout le monde a été sous le choc, on comprend du reste. Et ceux qui n'étaient pas catholiques ont dit « Oui, c'est vrai. » Le Saint-Esprit descend plus vite sur vous que sur nous. Je trouve ça très joli, moi. Oui, et on voit très bien ça. Il fallait un argument de choc, comme ça, pour qu'ils puissent comprendre. Ils auraient discuté indéfiniment. Et alors, les catholiques, à ce moment-là, ont dit, l'institution pour nous, ce n'est pas du tout l'inspiration. L'inspiration vient toujours du Saint-Esprit. L'institution vient du Saint-Esprit. Elle est là pour être garante de la communication, de la vérité. Et puis, l'institution est du Christ. Elle communique la grâce par les sacrements. Alors, ils ont continué plusieurs fois et chaque fois, il y avait quelque chose comme ça d'assez extraordinaire. Jusqu'au jour où ils ont bien reconnu que l'opposition entre catholiques et protestants signifiait rien du tout. Il fallait reconnaître qu'on prie, et le Saint-Esprit montre que les catholiques sont bien sous le sceau de l'Esprit-Saint. Alors le père O'Connor a raconté qu'il avait été voir l'évêque à ce moment-là pour lui dire ce qui s'était passé. Alors l'évêque était très surpris et a dit, que voulez-vous, moi je ne suis pas charismatique. Alors, vous l'êtes vous, puisque vous êtes avec vous jeunes. Alors c'est vous qui dites si c'est ce qu'il faut, si vaut mieux continuer ou pas continuer. Et c'est à partir de là que ça a continué. Et c'est arrivé en Europe. Tout ça, moi j'ai été très heureux de connaître ça, parce que j'ai trouvé ça très beau. Vous voyez, alors n'opposons surtout pas, voyons la diversité des grâces. Vous voyez, n'opposons pas pour certains, sûrement, ces grâces charismatiques, on peut leur donner beaucoup. Pour d'autres, c'est le silence de leur raison et de la contemplation. Pour d'autres, c'est une recherche de vérité. Le sermon sapiencier. Les charismatiques. Et qui permet de communiquer les secrets de Dieu. Vous voyez, la lecture de l'Apocalypse, que nous faisons ensemble, pouvoir communiquer ce qui semble être le sens profond, relève du cerveau sapientiel et du don d'intelligence du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas les charismes, mais souvent les charismes permettent la communication de certains dons du Saint-Esprit. Et cela, c'est la doctrine classique de l'Église, c'est pas moi qui invente ça. C'est la doctrine classique, et c'est simplement ça que je voulais souligner. Alors j'ai peut-être souligné d'une manière qui a été trop... C'était pas dans mon intention, je me rappelle pas. C'était pas au moment où j'étais piqué par la guêpe, alors ça a été... Et croyez bien que je les aime beaucoup. Je l'ai encore dit l'autre jour devant quelqu'un qui venait de Paris de Monial. Dites-le, parce qu'ils sont d'une gentillesse extraordinaire avec nous. Le jour de la Pentecôte, qui est quand même leur grande fête, je parle. Laisse Paris le Monial le jour de la Pentecôte à notre usage. Et ça, c'est beau. J'ai trouvé, parce qu'on était là déjà avant. Ils m'ont dit, on ne changera rien du tout. Je dis, mais ça vous change. Pour vous, c'est quand même triste de ne pas être là le jour de la Pentecôte. Ça ne fait rien, vous êtes là. Oui. Et les relations sont très bonnes. Parce que je crois que c'est ce que l'Esprit Saint veut aujourd'hui. Qu'on soit de plus en plus dans le renouveau. Mais quand je dis le renouveau, c'est pas seulement le renouveau charismatique. C'est tout le renouveau d'Église. Vous vous souvenez cette manière extraordinaire à Paris le Monial quand le pape est venu. C'était tellement beau et c'était tellement ce que le Saint-Père voulait dire. Au terme de cette messe très belle qui était organisée par l'Emmanuel, le pape a dit merci, merci, merci au Renaud, merci, merci à l'Emmanuel. Alors un applaudissement pour tout le monde. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est tout de suite passé de la manifestation au mystère. Et au fond, c'est ce qu'on doit faire. Ne restons pas au miracle, à la manifestation, entrons dans l'adoration. Et c'est de fait ce qui se passe dans le mouvement d'Emmanuel. Au début, les charismes éclataient. Et puis, progressivement, on est entré dans l'adoration. Les charismes demeurent, mais c'est pour l'adoration. On ne reste pas au niveau charismatique, c'est ça que je voulais dire. Il paraît qu'il y a un petit problème à propos de l'imagination. Vous pouvez le poser, parce que...
C'est-à-dire qu'on s'est demandé en deux personnes donc, quelle était la part de l'imagination chez Jean dans la rédaction de l'Apocalypse. Pareil qu'il est en extase et qu'on lui dit écrit. Donc quelle est la part humaine de médiation?
On touche là un problème extrêmement important au point de vue de l'inspiration. Et c'est évident qu'il y a une imagination formidable dans l'Apocalypse qui dépasse de beaucoup l'imagination normale. D'un Galiléen. Je crois que le petit lac de Galilée est complètement dépassé. Complètement. Alors, l'inspiration, elle est reçue en premier lieu dans l'intelligence du croyant. Normalement, l'inspiration est reçue dans l'intelligence du croyant. Il peut y avoir une inspiration qui est reçue directement dans l'intelligence non croyante. C'est possible. C'est pas né nécessairement lié à la foi. Et on comprend, puisque l'inspiration, il y a une inspiration charismatique, et il y a l'inspiration des écrivains qui ont l'inspiration pour toute l'Église. C'est pour ça que l'Église distingue toujours l'inspiration particulière, et là l'Église juge si elle est juste, et l'inspiration des auteurs inspirés. Et l'inspiration des auteurs inspirés est une inspiration que l'Église respecte. Elle est reconnue comme celle de l'Esprit-Saint. Cette inspiration, donc, est d'abord sur l'intelligence, transformée par la foi. Et comme elle implique l'exercice de l'intelligence, mon intelligence est normalement liée aux images. Chaque fois que je pense, mon imagination est en acte. Il y a une image, plus ou moins cachée, plus ou moins présente, plus ou moins explicite, plus ou moins en acte. De sorte que certaines inspirations peuvent aller jusqu'au don de certaines images, de certains symboles. Jean connaissait ce qu'on appelle la littérature des derniers temps. Daniel. La littérature, donc, j'allais dire apocalyptique. Il la connaissait sûrement. Donc son imagination était déjà éveillée avec Daniel. Je ne crois pas du tout qu'il avait le livre de Daniel ouvert à ses pieds quand il a été sous le sceau de l'Esprit-Saint. Mais en même temps, ce n'est pas du tout un calque de Daniel. On retrouve des morceaux particuliers, ce qui serait du reste très intéressant à regarder. Parce qu'alors on verrait le passage d'une littérature apocalyptique imparfaite à une littérature apocalyptique parfaite. On passerait de l'imparfait au parfait. Faites-le, ça vous pouvez très bien le faire. Et c'est intéressant à faire, parce que ça met en lumière certaines choses de l'Apocalypse. On voit beaucoup mieux. Je ne le fais pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors on va tout de suite à l'essentiel. Pour au moins voir quelques aspects d'Apocalypse et permettre à partir de là une lecture plus approfondie. Mais sûrement que l'imagination de Jean a été mobilisée par l'Esprit-Saint. Ça c'est sûr. Et augmentée. C'est pour ça que je dis toujours un symbolisme divin. Vous avez remarqué. C'est l'imagination qui est au service de l'inspiration. Et cette imagination peut très bien être un don charismatique par l'Esprit-Saint, en vue de, ou peut-être simplement, l'inspiration qui se sert d'une imagination particulièrement forte. Quand un poète est inspiré, ben sûrement ça joue. Puisque Dieu ne détruit pas notre nature par la grâce. Jamais. Il la développe au contraire. La grâce ne détruit pas la nature. Et l'inspiration ne détruit pas l'intelligence et l'imagination. Alors jusqu'où va l'inspiration? Nous devons considérer que tout ce qui est dans Jean est inspiré. Je n'ai pas le droit de couper et dire là, ça c'est pas du Saint-Esprit. Oui, parce que vous diriez, le premier saut, c'est l'Esprit-Saint. Les autres, c'est Jean qui a peur. Alors il dit tout de suite, rien. Jean qui a lutté. Non, non. Tout est de l'Esprit-Saint. Tout vient de Jean et tout vient de l'Esprit-Saint. La coopération de la cause principale et de l'instrument fait que l'œuvre est commune aux deux. Et donc je ne peux pas, dans une œuvre qui est inspirée, séparer ce qui viendrait de l'homme de ce qui viendrait de Dieu. Tout vient de Dieu, tout vient de Jean. Dans une coopération, vous voyez. Jean est le premier à reconnaître qu'il se met à pleurer. Alors les pleurs de Jean sont-ils inspirés ? Sûrement, ça fait partie de ce climat particulier dans lequel se trouve Jean. Alors, je vais continuer ce chapitre 6, qui est très fort, qui est très beau, qui est très grand. Et on doit essayer de le comprendre de la manière la plus forte qui soit. Donc, le sceau premier qui fait apparaître le cheval blanc. Alors, voyez, c'est la grâce, le lien avec Jésus. Jésus, le cheval blanc. Chapitre 19, verset 11 et suivant. Il nous met tout de suite en présence de cette victoire du Christ. Alors ça, c'est très grand et très beau. Et ça doit nous secouer. Alors ça, c'est justement un des aspects où les charismatiques nous donnent quelque chose de très beau, c'est leur joie. La victoire de l'amour, la victoire de la vérité. Le chrétien est un être joyeux. Il peut connaître de très grandes souffrances et de très grandes tristesses, mais elles sont transformées par la grâce. Parce que la grâce ne supprime pas les tristesses et les souffrances. Alors nous avons au contraire second sceau, cheval rouge feu. Il fut donné d'ôter la paix de la terre et de faire qu'on s'égorgea les uns les autres. Alors ça, c'est la suppression de la sagesse. Le fruit de la sagesse, c'est la paix. Et donc, c'est l'orgueil. Je crois que l'orgueil, toute guerre provient de l'orgueil. Je lui donnais un grand glaive. Le rouge feu, c'est la colère de celui qui est orgueilleux. Et lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, c'est la famine. La famine ou justement la stérilité. Alors voyez ce qui est dit, j'entendis au milieu des quatre vivants, comme une voix qui disait un denier la mesure du blé, un denier les trois mesures d'orge, et l'huile et le vin ne les nuit pas. Parce que l'huile et le vin sont liés au sacrement. C'est très étonnant, ça. Il y a quelque chose là qui montre comment Dieu est là, tout proche. Alors vous pourriez dire, tenir la mesure du blé, le blé aussi. donné pour voir sur le quart de la terre. Vous voyez, c'est Dieu qui laisse aux démons la possibilité d'agir par l'homme sur l'univers. On a en nous, à cause et conséquence du péché originel, il y a en nous des complicités plus ou moins actuelles à l'égard de l'action du démon sur nous. Par l'orgueil, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie, l'orgueil, les yeux, la vanité, la confiance de la chair. Alors n'oubliez pas que les trois concupiscences sont dans la première épître de Saint Jean. Donc mettez en parallèle, on explique Jean par Jean. Regardez dans la première épître de Saint Jean ce passage. Chapitre 2, verset 16. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et la forfanterie des biens, rien n'est du Père, mais cela est du monde, et le monde passe. Lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Et ils crièrent d'une voix forte, disant : jusqu'à quand, Maître, saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang ? En le redemandant à ceux qui habitent sur la terre. Il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet, et leurs compagnons d'esclavage, et leurs frères qui vont être très curieux, ce cinquième sceau, il a quelque chose de tout à fait particulier. Vous voyez, c'est comme de l'intérieur. Ceux qui voudraient et qui en appellent toujours à la justice de Dieu, et qui voudraient que la justice de Dieu s'exerce dès ici-bas, alors que Dieu leur demande cette patience d'attendre le temps de la volonté de Dieu. Oui, alors, comment traduire cela ? Je crois que c'est le vieux reste de pharisaïsme qui reste en nous d'un certain contentement au niveau de la justice et qu'on plaide tout le temps la justice. Œil pour œil, dent pour dent. Et que même ceux qui ont été martyrs devraient demander que Dieu punisse sur la terre ceux qui les ont martyrisés. Oui, ça va juste en sens inverse de la prière du Christ. Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font. comprenant que on est naturellement en nous un sens très aigu de la justice et qu'on n'accepte pas cette patience de Dieu. Vous savez, il y a ce passage dans l'Écriture, dans saint Matthieu, quand on voit que le démon, la nuit, sème le mauvais grain. Le mauvais grain, c'est deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Vous voyez bien, le mauvais grain reçu par chacun d'entre nous en raison des conséquences du péché originel. Les complicités plus ou moins prononcées avec le démon. Et Jésus dit qu'il ne faut pas arracher tout de suite le mauvais grain, qu'il faut attendre la moisson. Et on jettera d'un côté les mauvaises, le fruit des mauvais grains, et au contraire, on gardera le fruit du blé. Dieu demande une très grande patience. Et c'est très étonnant de voir qu'il y a un saut particulier, c'est-à-dire une volonté particulière du Père sur nous pour éviter le pharisaïsme, c'est-à-dire bâtir notre sainteté à notre taille humaine, selon notre comportement humain. On pourrait dire gérer humainement sa propre sainteté. On la gérerait au niveau de la justice et non plus au niveau de la miséricorde et de l'amour. Et ça, c'est intolérable. J'allais presque dire, vous voyez, comprenez bien, parce que c'est assez délicat. C'est le passage du régime de la loi au régime de la surabondance de l'amour. Alors on comprendrait qu'il y a bien un cinquième saut pour cela, étant donné l'importance de la loi et la surabondance que le Christ apporte. Et je vis, lorsque l'ange ouvrit le sixième sceau, il y eut une grande secousse, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses fruits encore verts. Quand il est secoué par un grand vent. C'est très beau comme nuage. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toute montagne, île, furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les capitaines, et les riches, et les puissants, et tout esclave, et hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car il est venu le jour, le grand jour de leur colère, et qui peut tenir ? Vous voyez que cinquième et sixième saut, c'est tout à fait différent du reste. Le cinquième saut, c'est l'homme qui construit sa sainteté. La grande tentation. Sixième saut, c'est les dernières attaques du démon. Parce que la lutte n'est pas seulement une lutte intestine, c'est une lutte aussi à l'égard de toute la puissance du démon que Dieu lui laisse. Le pouvoir du démon est très grand. montré ici, et il a montré avec la sixième, le sixième sceau, comme ce pouvoir du démon peut aller loin, et comme il peut